Juste, je citerai une citation. Bien que ça ne soit pas dans le DRR, mais j'ai trouvé une citation de Chateaubriand, pour ceux qui connaissent Chateaubriand. J'ai trouvé ça qui correspond un peu à ce qu'on veut dire. Ces feuilles qui tombent, comme nos ans, les années, ces fleurs qui se fanent, comme nos heures, ces nuages qui fuient, comme nos illusions, ces fleuves qui se glacent, comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Alors effectivement, le sujet est, est-ce que l'homme a une relation intrinsèque avec la notion de la nature, et plus particulièrement, puisqu'on fait des brachot sur ce qui est de l'arbre. Alors la Torah, elle vient nous dire la chose suivante. Que Adam est assadé, directement. La Torah nous dit, et l'homme est un arbre des champs. Un arbre des champs, ça veut dire ça, des champs. Il a des bras comme un homme, il a des troncs, etc. Alors évidemment, il faut comprendre cette notion-là. Et je vais aller selon une certaine direction qui m'est chère, bien entendu, au niveau d'éducation, au niveau de tout ce qu'on va essayer de développer. Avant tout, vous savez que la Torah, si on pouvait appeler ça l'écologie de la Torah, effectivement, ce soir et demain, ça s'appelle ça l'écologie, on va planter, on fête la nature. Évidemment, beaucoup de lois sont rapportées à la notion d'écologie, dont l'un des interdits qui est Baal Tachrit. Tu n'as pas le droit de détruire un arbre fruitier. C'est-à-dire que cette loi-là, cet interdit-là, c'est, on va dire comme ça, répandu dans toutes les interdits, à savoir lorsque j'ai dans une assiette à manger, je n'ai pas le droit de faire plus que, parce que je risque de jeter. Et là, j'entends cet interdit-là, de Baal Tachrit, de jeter, de gaspillage. Mais dans la Torah, il y a la notion au niveau de la nature de ce qu'on appelle la orla. Est-ce que vous avez entendu parler de la notion de la orla? Un arbre qui est planté, la Torah nous dit, vous ne pourrez en consommer qu'après 3 ans. 3 ans, la 4e année, vous la consommerez à Yerushalayim. La 5e année, vous pourrez la consommer là où vous êtes. Peu importe où, vous pourrez la consommer. Cette loi, effectivement, c'est en Eretz Israël. Non, la orla. Un arbre. En Chutz Laretz, alors c'est une discussion, les sages, est-ce que c'est de la Torah, c'est des rabbanan? En général, on a retenu que c'est des rabbanan. C'est des sages, mais quoi qu'il en soit, l'interdit aussi en dehors d'Israël. 3 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un plan, c'est n'importe quoi. J'ai coupé, on va dire comme c'est une branche, que j'ai appliquée dans une branche, une greffe, ou que j'ai mis dans la terre, ça s'appelle ça, je dois attendre 3 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette notion, parce que ce n'était pas dans la direction de mon cours, mais il est intéressant de penser pourquoi la Torah elle a dit, tu plantes, et à la sueur de ton front, donc tu vas travailler la terre à la sueur de ton front, mais tu dois attendre. Imaginez, vous allez, c'est l'anniversaire de votre fils ou d'autre fille, vous lui donnez un cadeau, vous lui dites, non, mais dans 3 jours, tu l'ouvriras. Mais attends, il va. D'abord, vous allez péter un câble, parce que pendant 3 jours, il va dire, papa, je vais ouvrir, papa, je vais ouvrir, arrête, tu m'as saoulé. À Kadosh, il nous a dit, tu vas travailler, tu vas semer, et puis seulement après 3 ans. Alors effectivement, il y a des arbres où après un an, on ne voit encore rien. C'est pas vrai, il y a certains arbres que déjà, ils portent leurs fruits. En tout cas, après 2 ans, j'ai vu dans le jardin de ma grand-mère, il y avait déjà un citronnier, il y avait déjà des citrons. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Alors imaginez, vous passez comme ça pendant 2 ans, 3 ans, devant l'arbre en disant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas tirer profit de ça. Il faut que j'attende la 4e année pour pouvoir aller au Shabbat. La Torah vient nous dire, comme ça, l'idée, une des idées, bien entendu, c'est l'abstinence. C'est-à-dire que d'être capable, lorsque l'on fait un travail, d'avoir un recul sur ce travail et de réfléchir sur ce qu'on a fait et après d'en tirer profit. Alors ça prend un certain temps. Pour la nature, c'est 3 ans. Pour chaque chose, lorsqu'on fait un travail, ce n'est pas directement d'en tirer profit. C'est d'être capable de prendre un recul. Dans un couple, c'est la même chose. Mariage, avec les enfants, c'est la même chose. Monter sur une table et regarder avec recul ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire ? L'itbonenu, c'est ce qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire la réflexion, un bilan de conscience de ce qui m'entoure. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Prendre conscience de ce qui m'entoure. Pour pouvoir prendre conscience de ce qui m'entoure, il faut que je stoppe ou ce qu'on appelait tout à l'heure le train-train quotidien et de regarder et de réfléchir. Lorsqu'on a pris cette habitude-là, alors vous verrez les choses autrement. Et vous en tirez profit beaucoup plus que si vous étiez jeté sur l'objet, sur la nourriture, ou peu importe, pour en tirer profit immédiatement. Le yetzer hara, le penchant, vous savez, c'est justement de faire trébucher la personne immédiatement. Le temps, c'est l'arme fatale, n'est-ce pas, numéro 1, 2, 3, 4, de l'homme. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur l'Har Sinaï et que enfin ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, ensuite aller en Eretz Israël, qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il leur a fait perdre le temps. Non, oui, mais juste avant. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'il ne descend pas? Il devrait. Ça va, attends encore un peu. En 6 heures, ils se sont plantés eux-mêmes. Ils se sont trompés sur les horaires. Mais ça a duré 6 heures. Ça n'a pas duré 3, 4 jours, une semaine. 6 heures. Adam Arishon, le premier homme, il a été créé juste avant Shabbat. Les Chachamim disent comme ça, s'il avait fauté à la fin de Shabbat, à Motsé Shabbat, il n'y aurait pas eu ce qu'on a eu. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de réparer la faute du premier homme. Il suffisait d'une ou deux heures, même pas, pour que le monde et que l'homme puisse être éternel. Et ça, elle a dit, non, on va jouer avec le temps. Alors, nous aussi, on a une arme. C'est quoi? Mida kenegel mida, mesure pour mesure. Tu vas avec le temps, moi aussi, je vais avec le temps. Lorsque l'Isara, le penchant, il vient et dit, dépêche-toi, dit, attends. Je réfléchis. C'est ça? Lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose, n'est-ce pas, vous avez, par exemple, je donne un exemple, vous avez envie d'acheter, n'est-ce pas, pour messieurs, souvent c'est électronique, c'est machin, le dernier iPhone, Samsung, tous ces trucs-là, je ne sais même plus à quel numéro on est là, je ne suis plus dans le truc, on m'a dit c'est un vieux téléphone. Effectivement, c'est comme la choule, c'est antique, c'est vieux, et c'est les meilleurs. Quoi qu'il en soit, lorsque vous voulez acheter le dernier iPhone, il vient de sortir, vous avez vu la pub qu'ils font. Il faut vous jetiez dessus pour aller l'acheter. Vous vous dites, attends, je réfléchis. Et vous commencez à réfléchir, qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à l'autre? Il y a un bouton en plus. Un bouton en plus. Ouais, mais ce bouton, c'est ça ce qui fait toute la différence du téléphone. Je t'en prie, qu'est-ce qui fait des différences? Ben là, quand tu as pris, ça fait qu'il y en a... Bon, la vérité, c'est un bon, parce que je ne connais même pas les téléphones. Mais, quoi qu'il en soit, et vous allez dire, oh, yétara, c'est vrai, mais j'attends. Peut-être que celui d'après, il va avoir 2 boutons. Alors, dommage que j'ai celui-là avec 1 bouton.
Tu parles pas du prix, là,
qu'est-ce qu'il fait? Voilà, mais ça, alors vous pouvez travailler. Chacun selon son arme fatale, n'est-ce pas? Vous parlez du prix, j'attends 1 ou 2 mois et je vais l'acheter. Mais en fait, et qu'est-ce qui va se passer après? Le fait que vous ayez attendu, à la fin, vous avez perdu de l'envie, n'est-ce pas, de l'acheter. C'est pour ça que lorsque l'on fait un chidour avec une jeune fille, on dit « dépêche-toi de te marier avec ». Parce que là, on a une mitzvah de se marier. On dit pas, attends, je réfléchis. Non, parce que là, tu vas jamais te marier. N'est-ce pas? À 36 ans, tu seras encore. Bon, attends, j'essaie. Aujourd'hui, le rabbin, il a dit, attends, je réfléchis. Ça va, moi, je réfléchis. Ouais, oui, mais tu as 36 ans, là. Dans la mitzvah, on n'attend pas, on se dépêche. Il y a une mitzvah à faire, on court. Mais lorsqu'il y a autre chose qui ne fait pas partie de la mitzvah, attends et je réfléchis. N'est-ce pas? C'est la meilleure. Maintenant, quelle est la relation entre eux? Puisque c'est écrit, la Torah dit, qui est, qui Adam est sa sadé. car l'homme c'est un arbre des champs. Bon, c'est mieux que qu'ils disent l'homme c'est un animal, c'est déjà plus sympa, c'est plus poétique, n'est-ce pas? Alors, l'homme est considéré, comparé à Etz Asadé, un arbre des champs. D'abord, pourquoi des champs? On appelle ça plutôt arbre fruitier, mais c'est pas forcé. Déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi un arbre. Alors l'arbre, je vais vous faire un cours de biologie, sciences naturelles, mais bon. L'arbre, bien entendu, l'une des choses essentielles pour l'arbre, pour qu'il puisse grandir, se développer, ce sont quoi? Les racines. On a vu que les racines, on ne les voit pas, et plus les racines vont profondément dans la terre, plus l'arbre va être capable, bien entendu, de pousser et de grandir. Mais vous n'avez pas posé une question, qui m'a dit qu'il y a des racines? Et vous êtes directement par logique, un arbre aussi grand qui n'a pas un socle puissant, il ne va pas tenir. Donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de voir les racines pour comprendre que tous ces beaux fruits qui sont là, c'est parce que les racines sont fortes et profondes. Pourtant, je ne les ai pas vues. L'homme, c'est la même chose. Lorsque ses actes sont extérieurs, c'est-à-dire ses fruits, d'accord? Lorsque ses actes sont extérieurs, pardon, sont beaux, sont, on va dire comme ça, avec la vertu, alors vous comprenez automatiquement que l'intériorité, la personnalité de ces personnes, donc, eh ben, a des vertus extraordinaires. Eh ben, tu as fait un laser, tu es allé voir, tu le connais? Non. Mais j'ai vu lorsque il y avait une personne qui était, voilà, qui avait besoin d'argent, je l'ai vu tout de suite se lever, aller vers lui, lui donner l'argent, l'asseoir à table, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez tout de suite de cette personne-là? Eh bien, il est de bonne vertu. Une belle éducation. Mais tu le connais? Tu as vécu avec lui pour savoir ce qui se passe? Non. Mais son acte prouve ce qu'il a à l'intérieur de son cœur. Les fruits, les beaux fruits d'un arbre prouvent effectivement ce qui est caché. Des racines profondes et puissantes. Comme exemple, bien entendu, premier exemple qu'on peut donner, et je ne me tiendrai qu'à celui-là, c'est Abraham Avinu. Abraham, bien entendu, par ces 10 épreuves qu'il a passées, il a, dans un certain sens, communiquer, mis, c'est même pas communiquer, c'est, comment on appelle ça, insuffler à toutes les autres générations qui allaient venir, la force, le chesed, la tzidkout, toutes les vertus que pouvait avoir Abraham, c'était lui, entre guillemets, la racine, il les a données à toutes les autres générations. Lorsque l'on voit quelqu'un qui fait du chesed, on dit, ben oui, c'est un fils d'Abraham, comme ça nous dit les sages. Pourquoi? Parce que plus les racines sont profondes, sont belles, plus les fruits qui sortent sont beaux. Mais pour cela, il fallait que, évidemment, Abraham travaille. C'est pour ça que Abraham, le père des nations, mais ce n'est pas seulement Abraham, c'est celui dans lequel on commence avec les 10 épreuves. On aurait pu voir autre chose d'Abraham, pas forcément des épreuves, voir ses qualités, etc. Mais c'est à travers les épreuves, à travers justement toutes ces choses de la vie qui font qu'on voit qui est un homme. Et lorsqu'on a vu donc les actes de bravoure d'Abraham, d'Emouna, de Bitaron, de confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a vu dernier acte de bravoure, mais je ne rappelle même pas ça de bravoure, de totale confiance à Akadosh Baruch Hu, où son seul fils, après 100 ans, on va dire comme ça, il a attendu tellement de temps à 100 ans, il a un enfant et on lui dit, mais maintenant tu vas devoir le sacrifier. Et qu'il est le premier, Vayashkem, Avram Baboker, il s'est levé à toute vitesse ce matin. Voilà la question, la seule chose, c'est comment il t'arrive à dormir pour se lever. On dit à un père, tu sais, tu vas sacrifier ton fils, moi je ne dors pas la nuit. Mais il était arrivé, il était capable de dormir. Il s'est levé tôt le matin pour faire la mitzvah. Mais cet acte-là, après je lui ai dit, stop, arrête. On n'a pas besoin de ça.
Pourquoi?
Et tu m'as demandé, c'est quoi? C'est dire oui, non, comme ça? Non. C'est juste pour insuffler à toutes les autres générations qui vont venir, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les enfants chez les fous du Mashiach, cette capacité d'abnégation devant tous les problèmes qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un peuple qui a subi autant de pogroms, et le dernier le plus grand malheureusement, la Shoah, et qui est là encore. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble, Baruch HaShem, une communauté perdue dans les vitraux, vous allez me dire, perdue, ah, vitraux, perdue, hein, comparé. Hein. Bon. Mais on est tous là ensemble. Extraordinaire. Mais qui nous a permis de nous réunir comme ça, si ce n'est pas Abraham, et par son abnégation? Cette force-là de dire, je fais jusqu'au bout. Combien de peuples ont subi des choses peut-être atroces, mais ont disparu? Combien d'empires ont essayé de nous faire disparaître, mais eux-mêmes ont disparu? Et nous, nous sommes là encore à se rappeler de ces empires-là qui, eux, voulaient nous faire disparaître. Et nous, on les met en mémoire. Rappeler de Babel, de la Perse, de etc. Et même de l'Allemagne, etc. Vous rappelez cela? Ces empires-là, ils ont disparu. Mais nous sommes toujours là. Plus que ça, lentement on revient sur nos terres. Eretz Israël. Et on montre qui l'on est. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai entendu qu'il y a eu un accord avec le Tchad. Peu importe, ce n'est pas notre sujet. Mais, Bezrat Hashem, l'essentiel, avant de faire le shalom avec les autres, l'essentiel de faire le shalom, bien entendu, entre nous. Et c'est à quoi on doit arriver. Si c'est pas, vous savez, la nature, c'est justement ça. La nature, c'est la symbiose. Entre chaque chose, chaque compartiment qui existe dans la nature, même un champignon qui se trouve sur un arbre, mais ça lui permet aussi d'enlever certaines scories qui peuvent tuer un arbre. Alors dès qu'il y a l'extrême, alors bien entendu c'est tué. Mais c'est ce qu'on appelle justement la symbiose. C'est ce qu'on appelle dans la nature toute cette symbiose que l'on voit qui permet que nous on est en train maintenant tout d'un coup de se réveiller, de dire on lutte pour rééquilibrer la nature. Mais la nature a dit, mais nous, on est équilibré. C'est vous qui êtes déséquilibré. Vous qui avez l'intellect, vous avez déséquilibré des arbres, des animaux, ceux qui, entre guillemets, n'ont pas de sechel, d'intellect. Et nous, dans la Torah, on dit non. Nous savons comment équilibrer. La première chose à faire, bien entendu, c'est l'équilibre entre nous tous, tous les bénis Israël. Et lorsqu'il y a un équilibre entre tous les bénis Israël, comme c'est dit l'Orah Haïm, alors il y a un équilibre dans la nature. Lorsque malheureusement le peuple et les peuples sont pervertis, automatiquement ça entache sur la nature pervertie, comme on l'a vu à l'époque de Noé, de Noah, où malheureusement même les animaux, ça devenait n'importe quoi, mais ce n'est pas dans la nature des animaux et de tout ce que l'on... On aurait pu imaginer de voir ce qui s'est passé à cause justement de des hommes qui ont été corrompus. Alors, ça c'est la première chose. L'autre chose qu'on peut voir, l'autre idée que l'on peut voir par rapport à la nature et l'homme,
mesdames, s'il vous plaît,
c'est que l'on n'a pas le droit, vous savez, on va dire comme ça, on n'a pas le droit de mesurer un arbre chaque jour pour vérifier. Combien il a grandi? C'est logique. Vous allez prendre un plant, oh, allez, viens, mesure, on le replante. L'arbre, il ne va jamais grandir. Ah, vous le sortez, vous le replantez? Je sais pas, il va pas grandir. Hein. Alors, c'est de la même façon chez un homme. On ne peut mesurer un homme, enfin mesurer, on va dire comme ça, au niveau, bien entendu, intellect, avec des instruments courants. On va dire comme ça, c'est que le but de l'homme, finalement, de sa venue dans ce monde, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi? Pourquoi vous êtes venu, monsieur le président? Continue, bon, il est d'accord.
C'est un Normand.
Ah bon, ouais.
d'un cuir tête blanche, non.
Alors, pourquoi nous sommes venus dans ce monde, si ce n'est pour travailler sur nos vertus, pour nous construire? Construire, c'est pas aller faire ce qu'on appelle mettre au boulot dodo, d'aller travailler. C'est un moyen. Mais on peut être milliardaire et être un mécréant. On peut être un pauvre type dans la rue qui n'a, mais être un tzaddik. Alors, évidemment, le but de l'homme, à l'instar des animaux, c'est pas simplement de survivre, mais c'est plus que ça. C'est de se construire intérieurement. Et pour qu'un arbre puisse pousser, il faut qu'à l'intérieur, il faut qu'il y ait terre, meuble. Il faut qu'il y ait des engrais, il faut qu'il y ait un habitat. Il faut toute cette chose-là qui fait que l'arbre puisse grandir, chez l'homme, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un habitat adéquat. On ne peut pas habiter n'importe où. On ne peut pas donner à manger, entre guillemets, n'importe quoi. Pourquoi? Ben, vous le savez très bien. Parce qu'après, l'homme Israël n'existe plus. Vous imaginez 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Lorsque les Juifs, après la Shoah, juste avant la Shoah, c'est même pas après la Shoah, pendant la Shoah et juste avant la Shoah, ils ont su, certains savaient ce qui allait venir. On dit, mais je comprends pas, pourquoi ils se sont pas sauvés? Pourquoi ils sont pas allés aux États-Unis? Pourquoi ils sont pas... Un des Gdolim, un des grands sages d'Israël, révolter c'est une chose, mais avant la révolte, on peut déjà décider de partir. N'est-ce pas? La révolte, c'est quand on est déjà dans le pétrin, on essaie de se révolter. Mais avant, on voit que la chose arrive. Sors d'ici. Alors je dirais juste les... ce que dit l'un des commentateurs de la Torah, hein, que les Bnei Israël, on vient de faire la paracha de Béchalar, n'est-ce pas, Azé chez Moshe. Vous savez qu'on aurait pu passer par la terre de Plishtim, il y a fait Méon. Et pourquoi on n'est pas passé par la terre des Philistins? La terre des Philistins, c'était en trois jours on arrivait en arrêt d'Israël. On avait à manger, on avait à voir. Le kiff, tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait la 40 ans dans le désert? On n'a ni à manger, ni à boire, machin. Il a dit, non, vous irez pas là-bas, vous passerez par le désert. T'es malade. Attends, moi, j'étais en Égypte, bon, c'est vrai que c'était difficile, mais j'avais quand même pas à manger, j'avais quand même à boire. Là, on me demande de passer par le désert.
On a mangé la manne.
Oui, mais avant la manne, vous savez, vous allez manger la manne. Vous ne savez pas, alors commencez pas.
Tu l'as goûté, là?
Vous ne savez pas, les Juifs, les Bnei Israël, ils ne savaient pas qu'ils allaient manger la manne.
Il faut travailler la
pas seulement ça. Nos sages ils disent que si on était passé par les Philistins, on se serait assimilé. Ça aurait été trop difficile de passer de l'Égypte, qui était déjà difficile de passer chez les Philistins, qu'on aurait, etc. On aurait oublié. Notre but, c'était quoi? D'aller recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. On aurait oublié. Donc Hachem a dit, tu sais quoi, pour lui dire ça, mais ça va trois jours, on va oublier en trois jours. On passe directement et on s'en va. Non, même pour trois jours, il y a peut-être un doute. Il y a peut-être un danger un doute sur le danger qui risque d'arriver sur Israël. Il vaut mieux qu'il passe 40 ans où là, il n'y a pas de doute qu'ils vont s'assimiler, que trois jours. Vous imaginez? Donc, à nous de savoir, lorsqu'on va s'implanter quelque part, comme un arbre, vous allez planter un abricoté dans le désert, vous allez mettre un palmier au Groenland. Évidemment que non, ben ça va, c'est de la terre comme la terre, partout c'est de la terre, mais non, chaque arbre il a besoin de son terreau, il a besoin des engrais.
Et de son environnement.
De son environnement. Et bien de la même chose, le Ham Israël, son environnement, son Eretz Israël. On a été exilé, parce qu'on a fauté, d'accord. Mais c'est la pire des choses. Comment être capable de... Et ces juifs-là, ils avaient la possibilité d'aller aux États-Unis, ils ont dit, mais ici, on est avec... On est entre guillemets entre juifs, cachers, tout on a, même s'il y a un danger. Mais là-bas c'est pire, on n'a rien. On est encore plus en danger spirituel qu'ici. Ici on est en danger physique, mais là-bas on est en danger spirituel. Et c'est pour ça qu'une grande partie des juifs ont décidé, malgré ce qu'ils savaient qui allait arriver, de rester en Allemagne, de rester en Pologne. C'est fou.
D'ailleurs ils retournent maintenant.
Oui, bon, ça c'est autre chose. On ne voit pas retourner. Mais bon, peu importe. Mais comment est-ce possible? Ben, si je n'avais pas cette histoire de ces Hébreux qui auraient pu passer par la terre des Philistins, je n'aurais pas compris ces Juifs qui, au lieu de partir aux États-Unis, sont restés en Allemagne. D'autres sont partis en Eretz Israël. C'est vrai. C'était pas évident aussi, mais le problème, c'est que là-bas, ça aussi, c'était un danger pour y arriver. Alors que les États-Unis, c'était pas un danger pour y arriver. Notre vie à nous, elle est faite de choix. Vous êtes dans un travail, vous êtes avec vos collègues, vous allez manger, vous n'allez pas manger, vous allez de cet endroit ou pas, je vais accepter ce travail ou pas, oui mais il y a perpète, il y a une choule, il y a un mikvé, il y a quelque chose, c'est pas grave, mais je gagne bien. Après on verra, ça va un an, après je reviens. Mais qui t'a dit qu'en un an tu vas revenir le même? C'est ça ce que nous dit aussi tout le Bishwat. Qui Adam est assadé, car l'homme c'est comme un arbre. Parce que là, bon, on ne va pas planter, ça va, pour l'instant je le plante ici, après on... Mais tu vas le tuer. Après une semaine ou deux, si c'est pas dans sa terre, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu as gagné? Autre chose qu'on peut apprendre aussi, c'est que lorsque l'on plante un arbre, qu'est-ce qu'on fait à part de mettre des engrais, etc.
Mettez pas du glyphosate.
Il y avait un tuteur, je sais pas qui a dit.
Mettez pas du glyphosate.
Non, déjà on n'est pas. On met de l'eau, on arrose et on met un tuteur. Alors, effectivement, tout ce que vous dites, évidemment, c'est extraordinaire, mais l'homme, c'est la même chose. Qui a maïm à Torah, parce que l'eau, on ne va pas dire, bon, eh ben, l'homme, c'est comme l'arbre, on va l'arroser tous les matins avec de l'eau. Non, l'eau, la Torah, les Chachamim disent, on compare l'eau avec la Torah. Le Ham Israël ne peut survivre s'il n'a pas la Torah. Imagine, on fait tous la même chose. C'est quoi? Laisse tomber, la Torah, on fera à la retraite, d'accord? Tous, il n'y a pas de rabbin, il n'y a rien. On va tous faire les études, on va tous machin, et on va faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Après 70 ans, imaginez, on se retrouve. C'est quoi la fête aujourd'hui? Je ne sais pas, le calendrier, mais qui c'est qui est calendrier? C'est en inverse. Il y a la fête de Léon, la fête de machin, il y a la tarte avec la fête dedans, il y a le truc des fruits. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Je sais pas, regarde, bon, on voit internet, Wikipédia, on va chercher, si c'est planté lui aussi, c'est même pas. 70 ans, personne n'a étudié la Torah. Vous allez vous retrouver à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dois faire Kaddish, mais je ne sais même plus dire Kaddish. Ben, va voir le rabbin. Mais le rabbin, tu as vu le rabbin? Waouh! Ouh, il est cool le rabbin. Mais pourquoi il est cool? Ben, il a fait l'étude avec toi, il ne sait même pas lui demander. Ben, va lui demander. Oh, monsieur le rabbin, ouais. Oh, salut John. Tu sais qu'est-ce qu'on fait comme bracha, tout ça? Je ne sais pas, moi je te demande, et toi, tu sais? Non, ben, moi aussi. Vous imaginez, ça c'est juste 70 ans, un siècle, deux siècles, personne n'étudie. Mais c'est fini, j'attends même pas deux siècles.
Extinction.
C'est fini, l'homme Israël. Il n'a même pas la notion de Yom Ha'atzmaout, Eretz Israël. Eretz Israël? Pourquoi on aurait Eretz Israël? Je sais pas, je sens comme une proximité avec Eretz Israël. Mais pourquoi? Je sais pas. Ben, tu n'as pas de preuve, alors tu n'es pas là-bas. Tu peux aller en Argentine, comme il avait décidé à l'époque, ou tu peux aller en Angora, ou tu peux aller... Effectivement.
En Ouganda.
Ouganda, pardon. En Ouganda. Ouais.
Ouganda,
ouais. Ah, ça va, dis donc, allez. Bon, alors.
Ouganda, ouais.
Donc, imaginez. Il ne peut y avoir veillé ta boyoman valai, la Yojo, il a dit, et tu diras jour et nuit. Si on veut la pérennité, la pérennité du Ham Israël, ce n'est que par le limout. Ce n'est que par l'étude. Jour et nuit. Tout le monde n'est pas capable, effectivement. Tout le monde n'est pas capable. Mais il faut qu'il y ait une partie du Ham Israël qui puisse étudier jour et nuit. Pour qu'à un moment donné, où vous demandiez des questions, qu'on puisse vous donner réponse. Un arbre, si vous lui dites, non, écoute, dans 10 jours, je l'arrose, non, je pars en vacances, bah, laisse tomber, ton arbuste, jette, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe, nous, si on part en vacances pendant 70 ans? C'est fini, l'homme Israël. C'est la même chose. Il faut aussi un tuteur, comme vous avez dit. Évidemment, il faut un tuteur. Il faut quelque chose qui tienne droit. Imaginez, vous arrivez, vous voyez un arbre tordu. Vous dites, oh, le pauvre, qu'est-ce qu'il a dans son épée occupée? Et on peut faire maintenant? C'est fini. L'homme aussi. Vous voyez maintenant, tant qu'il est jeune, on est là, à lui donner l'éducation. Être un tuteur, être toujours derrière les enfants, l'arroser comme il faut, lui donner les bons engrais. Chaque chose lui donner de façon adéquate pour qu'il puisse grandir. Mais pas dire, vous voyez, pendant 2-3 ans, après ça y est, il m'a saoulé. Même après, tant qu'il grandit, un jour, effectivement, on se retire et on dit maintenant à toi de continuer ta croissance, c'est-à-dire ta vie, mariée, etc. Tu as besoin de moi, je serai toujours le tuteur. Mais imaginez que vous laissez tomber, vous laissez en jachère, n'est-ce pas la terre, vous laissez en jachère les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Après 20 ans, ça devient voyou, ça devient... Enfin, dans le meilleur cas, il devient quelqu'un de bien, mais il peut devenir voyou. Bon, attends, je vais travailler avec lui maintenant, mais c'est fini, monsieur. Vous l'avez laissé tomber, maintenant il est tordu. Vous l'avez laissé tomber. Le tuteur ne servira plus à rien. Un enfant, c'est dès le départ. Une fois un couple est allé voir, le stepper a dit, Rabbi, on veut savoir quand l'éducation doit donner à nos enfants, Bezrat Hashem, on va avoir un enfant là. Il a dit, c'est trop tard. Bon, il était rare, il était dur. Il a dit, mais comment ça? Il dit, l'éducation commence par toi. Comment toi tu es? Comment toi tu vas donner l'exemple aux enfants? C'est toi le tuteur. C'est toi qui dois commencer. Tu ne vas pas commencer avec les enfants, c'est pas un cobaye. C'est toi qui dois montrer justement le bon exemple. Donc l'éducation, elle commence par toi, elle ne commence pas par tes enfants. Et lorsqu'on est capable justement d'inculquer aux enfants, pendant des années, puisque un arbre, c'est pas pendant un trimestre, pendant un an, pendant 2 ans, pendant des années jusqu'à ce qu'il devienne vraiment un arbre, ben c'est la même chose. Pendant des années, jusqu'à ce qu'après, qu'est-ce qui se passe avec l'arbre? Il donne des fruits magnifiques. Qu'est-ce que nous dit Teilim? Bidima. Asbe be. Bezor be comment dit ma? Bezir bedima zorim bedima pardon. On ensemence bedima avec la pleur, avec la difficulté. Obe rina iksoru et avec la joie, on va récolter. Ça c'est la terre. Mais c'est la même chose. Avec difficulté, on va enseigner, on va éduquer. C'est difficile. Aval berina iksoru. Mais avec joie, on va récolter. Vous récoltez les beaux fruits parce que pendant des années, vous avez travaillé la terre, vous avez travaillé l'arbre, vous l'avez arrosé. C'est fatigant. Mais un beau jour arrive, et ben au Hachem, les fruits sont magnifiques. Et ces fruits-là, ils continuent à donner des fruits sans arrêt. Lorsque vous avez éduqué vos enfants de telle sorte que vous avez transmis le message, eh bien, les enfants, eux, ils sortent de beaux fruits. Eux-mêmes, ils vont avoir ce message-là d'éduquer ses enfants, leurs enfants eux-mêmes, de la même façon que les parents ont éduqué. Si on laisse tomber, les enfants, ils vont dire, eh bien, si on veut, on va se révolter, nous, on va aller dans l'autre sens. Et puis ça fait ping-pong, une fois comme ci, une fois comme ça. Jusqu'à un moment donné, il y en a qui décident, bon, moi, je pense que le meilleur chemin, c'est comme ça. Et ils réussissent, Siata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, et puis les enfants, ils voient qu'ils ont une bonne éducation, et eux-mêmes, ils ont compris la leçon, et ils enseignent à leurs propres enfants, etc. Et je finirai. Je finirai le Sébarak, hein, mais on va finir. Vous savez que l'un des traités qui parle justement de la nature, des arbres, etc., c'est le trait de Zraïm. Zraïm, ça vient en semencement. Et ça s'appelle aussi le Emouna, traité de l'Emouna. Pourquoi? Parce que, imaginez un agriculteur, il va le semencer, il va travailler la terre. D'où tu sais toi que tu vas avoir des beaux fruits? Tu travailles comme un fou, mais qui te dit que tu vas avoir quelque chose après? La Gemara, comme ça dans Ta'anit, elle rapporte comme ça, peut-être que vous l'avez entendu parler, l'histoire de Choni Amagel. Choni Amagel, une fois, il se balade et il voit un type travailler la terre, il est en train d'ensemencer un caroubier. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est qu'un caroubier, en Eretz, vous allez visiter en Eretz. Et caroubier, c'est des sortes de trucs, là, on dirait des baguettes, voilà, des fèves marrons comme ça. Un caroubier. On avait mangé. Ben, ça va, moi, je n'ai pas mangé, mais c'est dur. Hein. Mais... il a dit au type qui était en train d'ensemencer le carobier, ah bon, Hachem, et combien de temps ça prend à pousser? Il a dit 70 ans.
70 ans? Pour qui tu fais ça?
Pour les enfants.
Alors il lui dit, et toi, quand tu es allé manger dans cet arbre-là, pour qui c'est qu'il a fait cet arbre-là? Ton père ou ton arrière-grand-père? Et maintenant tu profites de ça. Vous vous rendez compte, 70 ans, quelle émouna, quelle foi, quelle confiance en Hachem. L'agriculteur, il a confiance. Il va planter, il se dit, mais je vais travailler la terre, je vais labourer, et sans arrêt. On va voir peut-être, mais qui te dit? Il continue tous les jours en disant, peut-être que dans 10 ans, je vais avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est la folie, quelle confiance il a dans la nature. Ben nous, c'est pour nous aussi un grand message. C'est que, justement, le travail de la terre, le travail des enfants, le travail de chacun de nous, de labourer, chaque chose qu'on fait, encore une fois, plante avec difficulté, mais lorsqu'on le fait sincèrement, vraiment, alors Bérina et Xorou, alors on va récolter avec joie. Et tout ça, ça dépend justement, et c'est pour ça que je veux finir le dernier message, donc c'est cette émouna-là. Cette foi que j'ai une ébranla en Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu pour me dire justement que ce que tu fais, Bezrat Hashem, moi je vais te donner la siyata et l'ishmaïa, je vais te donner de l'aide, à condition que toi tu aies confiance en moi. Alors avec ça, moi je ne pourrais rien faire. Alors regardez tous ces grands agriculteurs qui travaillent. Et ils sont persuadés qu'ils vont avoir une belle vie, des champs de vignes, etc., des beaux arbres, qu'ils vont pouvoir vendre, etc. Demandez alors, vous en êtes sûr? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On n'est pas sûr, mais on travaille quand même. Donc vous êtes sûr. Parce que vous n'êtes pas à ce point bête de travailler en disant, peut-être pas. Ben, moi je fais autre chose. Ben, au fond d'eux, il y a quand même confiance. Et bien nous aussi, plus que ça. On est persuadé que lorsque l'on fait ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, alors la Totsa, le résultat, il va être à l'image du travail que l'on a fait. Bezrat Hashem, ce que je vous souhaite à vous tous, de tout ce que vous êtes en train de planter, ici dans la communauté, dans chaque acte que vous faites, c'est une petite semence que vous mettez. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ça, c'est justement la émouna, la patience. 70 ans, mais t'es malade d'attendre. Mais vous ne savez pas. Je me rappelle qu'il avait mis, il avait, et grâce à lui, il y a des gens qui sont venus à la communauté, qui ont fait la tefila, qui se sont renforcés. Mais lui ne pouvait pas savoir. Mais il avait la émouna, il avait confiance, que le fait de faire, c'est pour les autres, c'est pas que pour moi, c'est pour les autres. Mais quand on va avec cette idéal-là, alors besoin d'un chacun de vous, il donne à ces gens, il donne de l'aide. C'est ce que je souhaite à tous, la communauté de Vitrolles, de Marignan, etc., dans ce moment fait, d'avoir l'émouna et Bezrat Hashem, et qu'on puisse Bezrat Hashem tôt ou tard, comme dit le prophète, que toutes les communautés se retrouveront en Eretz Israël, qu'on puisse tous se retrouver en Eretz Israël, Béchalom. Amen.